Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Léa Sabourin, mais aussi Marguerite Caton et Maïlys André, réalisée par Dienab Sangaré et mise en onde ce matin par Audrey Guélil. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Alors qu'Emmanuel Macron est lancé cette semaine dans une grande itinérance mémorielle à l'occasion du centenaire de l'armistice, le chef de l'État a appelé de ses voeux la création d'une véritable armée européenne. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne, a-t-il déclaré cette semaine au micro de nos confrères d'Europe 1. On touche là à un sujet récurrent mais également hautement sensible tant il se trouve au cœur même des souverainetés nationales. Alors quelles sont les récentes avancées en matière d'Europe de la défense? Comment aller plus loin et jusqu'où les États membres sont-ils prêts à mettre en commun leurs moyens militaires? La paix en Europe passe-t-elle par une armée commune? C'est la question qu'on posera tout à l'heure avec deux invités qui sont d'ores et déjà avec nous en plateau. Pierre Arroche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, chercheur sécurité européenne à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Cyril Bray, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous, professeur de géopolitique, vous à Sciences Po. Avant d'évoquer ces questions, place d'abord à notre retour 2 en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Madagascar, c'est Laurence Caramel. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous, journaliste au Monde. Vous avez passé deux semaines sur place, dans la capitale, mais aussi dans la partie sud de l'île, c'est un pays que vous connaissez bien. Vous aviez d'ailleurs eu l'occasion de travailler autour des questions de trafic de ressources naturelles. Là, cette semaine, 10 millions de Malgaches étaient appelés aux urnes pour élire un nouveau président. Cette île de l'océan Indien, au large de la côte est africaine, a acquis son indépendance en 1960 et reste fortement marquée par des tensions internes. On reviendra sur celle de 2009, cette crise politique accompagnée de violentes émeutes qui avaient secoué le pays, aboutissant au départ du chef de l'État et l'adoption d'une nouvelle constitution. Mais c'est vrai que malgré ces changement, eh bien Madagascar reste rongé par ses vieux démons, corruption, insécurité, pauvreté, les maux des Malgaches sont malheureusement nombreux. Alors ces élections représentent-elles un espoir pour ces populations? Qui sont les candidats, leurs programmes, quelles sont leurs chances, les chances des uns et des autres? On va essayer d'y voir un peu plus clair. D'abord Laurence Caramel, disait 10 millions d'électeurs ont voté donc pour un premier tour. Ils devaient choisir entre 36 candidats qui sont en lice. Le scrutin de 2013 avait été marqué par une abstention assez forte. Là, est-ce que les Malgaches sont allés voter? Et globalement, est-ce que le scrutin s'est bien passé?
Les indications provisoires que l'on a, c'est que les Malgaches se sont davantage déplacés qu'en 2013, puisqu'il y avait eu au premier tour un taux d'abstention de 40%, là, semble-t-il, 50%, la moitié des Malgaches se sont déplacés. Donc, c'est plutôt...
C'est mieux.
Et pas d'incident majeur relevé jusqu'à présent.
Pas d'incident majeur. Est-ce qu'il pourrait y avoir des fraudes dans ce scrutin? Parce qu'il y a des observateurs qui ont été déployés sur place. Je crois que l'Union européenne, la communauté de développement de l'Afrique australe a aussi envoyé une mission d'observation.
Il y a des risques. Il y a un système d'observation et d'observateurs qui est assez important. Mais il y a néanmoins des risques. C'est un pays avec très très peu d'infrastructures. Beaucoup de bureaux de vote se situent dans des régions enclavées. Pour certains, il va falloir utiliser des hélicoptères pour aller récupérer les procès-verbaux de vote. Donc, bien sûr.
Donc, ça met beaucoup de temps avant d'avoir les résultats.
Et ça alimente la tension, puisque les résultats du premier tour ne seront officiellement prononcés que vers le 28 novembre.
Alors, il y a des résultats. Et si aucun des candidats n'atteint les 50%, il y aura un second tour. Alors, sur les 36 candidats, on a trois candidats quand même qui se détachent. D'abord, le chef de l'État sortant. Alors, je vais me lancer. Eri Rajaonarimampianina. Qu'on appelle Eri, donc on va l'appeler Eri, nous. Hein. Et puis deux anciens présidents, Marc Ravalomanana, qui a été président entre 2002 et 2009, et puis Andry Rajaolina, 2009-2013, donc les deux revenants. Vous expliquez que dans cette bataille à trois, en réalité, il y a une bataille au sommet entre les deux anciens présidents qui avaient été écartés de l'élection de 2013. Vous dites qu'en fait, l'actuel chef de l'État est quasiment un intrus. Vous parlez d'un concurrent de substitution. C'est un homme assez discret, voire carrément effacé, un ancien expert comptable. Est-ce qu'on va réellement assister à un duel entre les deux anciens présidents, ou est-ce que l'actuel chef de l'État, dont on fera peut-être le bilan tout à l'heure, pourrait jouer les troubles faits?
C'est ce qui semble se dessiner. Les premiers résultats que l'on a créditent R de environ 4%. C'est provisoire.
Combien?
4%.
4%, oui, d'accord.
Alors que Ange Rajoel et puis Marc Ravalomanan sont plutôt autour de 40. Donc, clairement, il va y avoir un duel entre ces deux revenants de 2009. Donc, effectivement, vous rappeliez qu'ils n'ont pas pu se présenter en 2013 sous pression de la communauté internationale.
On peut revenir un peu peut-être sur cette crise, Laurence Caramel, de 2009. Le chef de l'État de l'époque, Marc Ravalomanana, avait été remplacé par le maire de la capitale, donc Andry Rajoelina, qui a donc assuré la période de transition. Vous nous rappelez les racines, les ressorts de cette crise politique en quelques mots ?
Oui, donc en 2009, Marc Ravalomanan, qui est par ailleurs un homme d'affaires parmi les plus fortunés de l'île, est accusé de dérives autoritaires. Il écarte ses concurrents des marchés publics, voire fait fermer certaines entreprises. Et la grogne monte. Et parmi cette grogne, l'un des acteurs est effectivement le maire de Tananarive, Ange Rajoel, qui est lui-même un opérateur économique et qui se voit, je dirais, menacé dans ses intérêts. Tout cela aboutit à des émeutes et l'armée finalement demande à Marc Ravalomanan de lui remettre le pouvoir et ce pouvoir est transmis à Ange Rajoel qui va exercer donc les fonctions de chef de la transition pendant 4 ans, qui est un régime jugé antidémocratique par la communauté internationale et à la suite de ça, les bailleurs se retirent assez massivement et ça plonge l'île dans une crise économique assez profonde.
On dit que cette période de transition a été assez, j'allais dire, elle a été un moment où il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires de corruption. Vous en mentionnez certaines, notamment une affaire fameuse qu'on appelle l'affaire Claudine, du nom d'un proche du président de l'époque. C'est le cas, ça a été un moment où effectivement une poignée de personnes ont profité de la situation pour s'enrichir.
Oui, clairement, c'est un peu une tradition, hein, l'accaparement de la ressource publique ou des rentes économiques par les gens qui sont au pouvoir.
Mais là, plus,
qu'auparavant, parce que il y a un retrait des bailleurs, donc des financements étrangers. Et pour faire vivre l'État, Ange Rajoel a besoin de trouver d'autres formes de ressources. Et il y a notamment le trafic de bois de rose qui prend une place tout à fait importante et qui n'est pas terminé. Voilà, encore hier, on me rapportait qu'il y avait un bateau au large de Madagascar qui s'acheminait vers l'île Maurice avec des rondins de bois de rose.
Laurence Caramel, essayons de faire un bilan de ce chef de l'État sortant qui visiblement n'a aucune chance, en tout cas très peu de chance d'être reconduit. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Vous commencez justement avec son bilan. Quel regard il porte, lui, sur son propre bilan ?
Ce qu'il met en avant, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Il a été élu. Le retour des bailleurs. Il a fait approuver en 2016 à Paris le plan de financement de son programme de développement. Et je dirais les institutions financières internationales, grosso modo, adresse une forme de satisfecit à son bilan.
Oui, la croissance est plutôt bonne.
Il y a de la croissance qui est bonne. Les finances publiques ont été tenues. Donc voilà, il joue là-dessus et il jouait. Il jouait sur le fait qu'il avait besoin de davantage de temps, évidemment, pour déployer les réformes qu'il avait proposées aux Malgaches.
Alors c'est vrai que le bilan économique est plutôt satisfaisant, mais ce que vous dites, c'est que ces bons chiffres ne se traduisent absolument pas dans le quotidien des gens. Le prix du riz, par exemple, qui est l'essentiel de l'alimentation, continue de grimper. Les scandales de corruption se multiplient. Sur le terrain, ça n'a pas cette croissance ne s'est pas traduite très clairement.
Elle ne s'est pas traduite pour l'immense majorité des Malgaches qui vivent vraiment dans un dénuement total. Enfin, on a évidemment les statistiques de la Banque mondiale avec ce revenu inférieur à 1,90 dollars par jour et par personne. Enfin, concrètement, ça se traduit par des gens qui n'ont rien et qui sont dans des situations de survie et qui n'ont pas vu leurs conditions de vie s'améliorer. Par contre, ils ont vu s'accroître une corruption absolument à tous les niveaux.
Et ils se sentent toujours aussi délaissés. Vous êtes rendu dans un petit village perdu au milieu des terres arides du sud de l'île. Vous y rencontrez notamment un certain Pierrot. Et ce qu'il vous dit, ce Pierrot, c'est qu'il votera, lui, pour le président de la transition, hein, qui était en place entre 2009 et 2013. Pour quelle raison ? Parce qu'à ce moment-là, il a beaucoup plu. Ça peut paraître un argument futile, mais en réalité, il en dit beaucoup précisément sur ce sentiment d'exclusion de ces gens.
Oui, l'État est totalement absent dans ces régions et du Sud en particulier parce que il y a toujours cette opposition entre les populations des hauts plateaux, les mernes, qui constituent plutôt les élites du pays, et puis le Sud qui est délaissé, qui est l'endroit où vivent les descendants des Africains, des esclaves. Donc il y a une forme de mépris aussi hein, pour ces populations-là. Et ces gens-là, ne voient pas concrètement ce que leur apporte l'État.
Donc autant voter pour celui où la pluie était
abondante. Et puis il y a eu une distribution de t-shirts assez massive. Qui fait que, voilà.
Et dans cette campagne, vous dites aussi que la situation alimentaire s'est considérablement dégradée hein, ces dernières années. La malnutrition progresse dangereusement.
Alors, la malnutrition, elle est récurrente et elle est permanente dans le sud de l'île. Il se trouve que depuis 2016, il y a eu le phénomène El Niño qui a aggravé la situation. Et donc ça fait à peu près, il y a eu 2 années sans récolte et là, les pluies ne sont pas encore arrivées.
Sur la question de la corruption, qui est, on l'a dit, un problème systémique à Madagascar, vous l'interrogez justement l'actuel président et vous lui faites 3 relances, j'ai regardé. Et à chaque fois, il vous répond 1 à 2 phrases. C'est pour le moins lapidaire. Qu'est-ce que ça vous semble révéler des efforts en matière de lutte contre la corruption ?
Inexistante.
À l'image des réponses minimalistes ?
Mais minimaliste, sinon inexistante. Enfin, R, et il faut rappeler que c'est le ministre des Finances pendant le régime de la transition. Donc il est parfaitement au courant de ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et lui-même est tenu par un jeu de relations avec les personnalités qui ont à la fois financé ce régime et même sa campagne, puisqu'il était le candidat de substitution de Ange Rajoel en 2013.
Pour comprendre justement comment s'est passée la campagne, il faut introduire la question des médias, parce que pour espérer l'emporter à Madagascar, c'est vrai partout, mais peut-être plus encore à Madagascar, il faut être visible dans les médias. Et cette visibilité dans les médias, elle se paye, elle se monnaie. Vous expliquez qu'il y a des packs spéciales présidentielles qui vous garantissent une certaine présence dans les télés et les radios. Et plus l'échéance approche, et plus les prix explosent. Expliquez-nous un peu comment fonctionne ce système.
Mais on achète des articles comme on achète des encarts publicitaires. C'est aussi simple que cela. Il faut avoir beaucoup d'argent. Et parmi les 36 candidats, seuls quelques-uns, et les 3 favoris, avaient suffisamment d'argent pour absolument saturer l'espace médiatique de leur présence.
Et comment ils financent leur campagne ?
Qui les finance, en tout cas, Ange Rajoel et Marc Ravalomanan ont des fortunes personnelles. Ce sont des hommes d'affaires. Ils n'étaient pas riches en arrivant à la présidence. Ensuite, ils ont des mécènes, mais la société civile qui était assez bien organisée cette fois-ci a rédigé une charte de bonne conduite en demandant aux candidats de révéler leurs sources de financement. Aucun parmi les grands candidats n'a accepté de jouer le jeu.
Il y a quand même des médias publics, Laurence Caramel, qui pourraient avoir une approche, disons, égalitaire, équitable de cette campagne. C'est pas le cas.
Il y a effectivement sur la chaîne de télévision publique des temps de parole égaux, quels que soient les candidats, mais voilà, c'est noyé dans un paysage médiatique très très foisonnant et qui fait le jeu de des différentes écuries.
Et il y avait eu d'ailleurs un projet de loi électorale qui prévoyait de soumettre les acteurs privés du secteur au même principe d'équité que ceux qui existent dans le public, sauf que ça n'a pas abouti.
Ça n'a pas abouti de la même façon que la proposition de plafonner les dépenses de campagne a été rejetée par l'ensemble des partis.
Alors, il y a, vous expliquez ça, Laurence Caramel, quand même dans cet environnement, un nouvel acteur qui s'est invité dans ce jeu pipé, je reprends votre formule que vous utilisez dans l'un de vos articles, c'est Facebook. parce que le réseau social s'est imposé comme un nouvel espace de débat. Comment Facebook, justement, a transformé la campagne et quel impact ça pourrait avoir?
Alors, Facebook, c'est évidemment, ça ne concerne que les milieux urbains, mais on voit bien que chaque grand candidat a aussi sa stratégie de communication sur Facebook. Là où ça inquiétait les observateurs, c'est que c'est en même temps le véhicule d'une forme de haine et d'affrontement. Donc c'était...
C'est-à-dire
D'invectives, d'insultes, par exemple, toutes les rumeurs de fraude circulent sur Facebook. Elles ne sont évidemment pas filtrées, pas vérifiées. Et ça peut alimenter des tensions qui, ça n'est pas exclu, se retrouvent à un moment donné dans la rue.
Il y a également quelque chose à noter dans cette campagne, c'est la mobilisation des femmes malgaches. Vous parlez d'un véritable réveil citoyen.
J'ai rencontré des femmes extrêmement courageuses, non pas qu'il n'y ait pas d'hommes, mais les femmes sont vraiment en première ligne, des femmes et des mères, souvent, qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants dans ce pays qui n'a pas beaucoup d'avenir jusqu'à présent. Et donc, elles ont fait de la lutte contre la corruption, la transparence au sommet de l'État, vraiment leur cheval de bataille. Ce sont des femmes souvent... très bien formées, qui ont pour certaines abandonné toute idée de faire carrière et qui se donnent absolument entièrement à ce combat.
Pour autant, elles vous disent qu'elles ont énormément de difficultés à organiser des mobilisations citoyennes.
Oui, alors...
Très dur, les choses avancent, mais c'est encore très dur, il y a beaucoup d'obstacles.
C'est difficile parce que quand la majorité de la population vit au jour le jour et dans une situation de survie, elles sont aussi mal comprises parce qu'elles sont perçues on dirait ici comme des bobos qui ont le temps de s'occuper de ces choses-là. La majorité des gens doivent se préoccuper de savoir ce qu'ils auront à manger le lendemain.
Et est-ce que cette cause des femmes est relayée dans le paysage politique par les candidats et par les trois principaux notamment, ou pas du tout?
Les candidats, non, absolument pas. Enfin, c'est vraiment un travail de longue haleine. Elles arrivent à s'exprimer dans certains médias, et puis elles commencent à être relayées à l'étranger.
Toute dernière question, Laurence Caramel. Je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal, mais quand même, qu'est-ce que vous voyez pour le second tour? Parce qu'a priori, il y aurait un second tour. C'est en tout cas ce qui semble se dessiner. Ça sera de toute façon un revenant, mais lequel?
Oui. Oh, difficile à dire, on aura un match entre les deux. La question, Marc Ravalomanan, il a laissé quand même un souvenir plutôt positif sur la première partie de son mandat en 2002. Il y a eu des infrastructures de construite, l'économie se portait plutôt bien, donc les gens ont ça dans la tête. En même temps, il n'a pas très bien traité les côtiers. Et les côtiers, le vote des côtiers, il est très important. Et c'est aussi là-dessus que joue Ange Rajoel. Donc je pense que ça va être très serré.
Il y a une fracture géographique derrière tout ça.
Il y a une fracture géographique, tout à fait.
Merci beaucoup, Laurence Caramel. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, qu'on peut retrouver l'ensemble de vos papiers sur le site du monde.fr. Cette musique c'est Dizzy Brands, voilà, c'est le nom de ce groupe-là, Yes Sir, c'est un groupe malgache, évidemment, en tournée d'ailleurs en France actuellement, et qui sera ce soir à Ivry-sur-Seine, au Hangar. On tourne notre page malgache, place à notre table ronde, la paix en Europe passe-t-elle par une armée commune? C'est notre sujet.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Cette semaine, alors que le chef de l'État est lancé dans une grande itinérance mémorielle qui s'achèvera dimanche prochain lors d'une cérémonie du 11 novembre où seront présents de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont Donald Trump, Poutine et même Merkel, Emmanuel Macron a appelé de ses voeux à la création d'une armée européenne.
Moi, je crois dans un projet d'une Europe souveraine, d'une Europe puissance. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante, moi je veux construire un vrai dialogue de sécurité avec la Russie, qui est un pays que je respecte, qui est européen.
Une armée européenne.
Mais on doit avoir une Europe qui se défend davantage seule et sans dépendre seulement des États-Unis et de manière plus souveraine.
Alors l'Europe est-elle prête à franchir le pas ? Peut-on croire en une armée européenne ? Et au-delà de cette question, l'Europe de la défense pourra-t-elle enfin émerger ou se fracassera-t-elle sur le rocher des nationalismes et des souverainismes qui ne cessent de se renforcer à la faveur des crises qui touchent l'Union européenne ? Nos invités, Pierre Haroche, chercheur sécurité européenne à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, et puis Cyril Bray, professeur de géopolitique à Sciences Po. Notre partenaire du Monde, Marc Semo, on va commencer avec vous comme on le fait chaque semaine. Quelques heures après la déclaration, Marc Semo, du chef de l'État, l'entourage a fait une explication de texte, a précisé qu'il avait utilisé cette image forte de l'armée européenne pour rappeler à la veille du 11 novembre cette nécessité pour les Européens de renforcer leur capacité de défense. Donc l'Élysée a rapidement fait savoir que le président n'avait pas pour projet de constituer une armée supranationale, même s'il a effectivement l'ambition de renforcer l'Europe de la défense. C'est quand même un éclaircissement, Marc Semo, qui montre le caractère tabou de ce dossier et qui montre aussi combien la France, en réalité, est isolée dans cette ambition.
Absolument. Les mots étaient très forts et ils étaient faits pour frapper les esprits. C'est vrai que ça parle plus que renforcement d'un pôle de défense, mais parler d'armée, de vraie armée européenne, même si ensuite, dans la même phrase, il disait ce n'est pas seulement avec les États-Unis, etc. Ça ne peut que faire monter au sein de l'Europe l'hostilité de tous ceux qui sont contre ça. Non pas tellement parce qu'ils veulent avoir une armée indépendante, mais surtout parce qu'ils sont attachés avant tout à l'OTAN. Mais, effectivement, le renforcement de la défense européenne est fondamental. L'Allemagne elle-même reconnaît qu'aujourd'hui, on ne peut plus, la chancelière Angela Merkel, compter totalement sur le parapluie américain. Donc, c'est une urgence. Et on revient à cette idée qui, potentiellement, peut être structurante. C'est, d'une certaine façon, l'origine même du projet européen, parce qu'on l'oublie, il y a eu, en 1950, la communauté européenne de défense. C'était une idée française, une manière, justement, de créer une armée intégrée européenne avec les Américains, d'intégrer dedans l'Allemagne. Ensuite, le projet a raté à cause de la France, parce qu'il y a eu des très fortes oppositions internes, et on disait c'est une manière de... Le souvenir de la guerre avec l'Allemagne était trop proche. Ça a été une occasion ratée. Le problème, c'est que, effectivement, cette histoire de la défense européenne est une suite continue d'occasions ratées.
Eh bien, on y reviendra évidemment. Voilà le cadre posé. Il faudra bien sûr beaucoup parler de l'Allemagne parce que c'est probablement le pays sur lequel il faut attendre des évolutions pour espérer enfin l'émergence de cette Europe de la défense. Mais Cyril Bray, c'est vrai que je disais c'est une question tabou. C'est aussi une question tabou parce qu'elle touche en réalité à la question de l'identité nationale. On est là au cœur là de cette question-là qui est éminemment sensible en ce moment, Cyril Bray.
Oui, pour une nation, pour un État, l'armée c'est le maximum de solidarité. C'est être prêt à mourir pour la communauté. Et donc ça suppose effectivement qu'une communauté soit constituée, une communauté d'intérêt, une communauté de représentation, une communauté également de sacrifice et une communauté de menace. C'est pour ça que cette déclaration, je souscris à ce que Marc Semo vient de dire, cette déclaration est pesée au trébuchet. Elle est bien un signal envoyé à la communauté nationale française et un signal également envoyé à travers l'Europe pour positionner Emmanuel Macron comme le leader de ceux qui militent pour la supranationalité, pour le maximum d'ambition européenne. Et c'est évidemment une thérapie de choc pour nos amis allemands, mais également une thérapie de choc pour nos amis polonais et pour ceux des pays européens où l'identité nationale est profondément solidaire de l'appareil militaire, comme par exemple la Grèce.
C'est en réalité un message beaucoup plus large qui s'inscrit dans une campagne européenne qui a déjà commencé. Pierre Haroche et puis Marc Semo. Pierre Haroche.
Alors, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse parler de tabou, parce que pour un objet dont tout le monde dit que finalement il ne sera pas réalisé, qu'on n'a même pas de projet concret pour l'instant, je trouve qu'on en parle beaucoup finalement. Le président Macron en a parlé là, mais on se rappelle qu'en 2015, c'était le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui avait fait beaucoup parler de lui en disant « il faut une armée de l'Union européenne, là aussi pour montrer que nous sommes sérieux vis-à-vis de la Russie ». Et puis, c'était aussi encore plus inattendu un certain nombre de leaders nationaux, le président tchèque, le premier ministre hongrois Viktor Orban, eux aussi On parlait d'armée européenne dans les années qui ont suivi. Ça a été un débat un peu surréaliste pendant la campagne du Brexit en 2016. La presse britannique eurosceptique parlait quasiment tous les jours du fait que les Britanniques, s'ils restaient dans l'Union européenne, risquaient d'être entraînés malgré eux dans une armée commandée par Bruxelles. Donc finalement, c'est un concept qui fédère beaucoup de signaux politiques, d'enjeux, alors même que d'un point de vue technique, effectivement, comme le rappelle ce communiqué de l'Élysée, il n'y a pas de projet concret sur la table à court terme.
Marc Sémo.
Excuse-moi, est-ce qu'il n'y a pas un énorme risque de faire de la pure rhétorique? Parce que finalement, le seul point commun des Européens en matière de défense, il y avait ce sondage de Pew Institute trans-européen qui disait « Êtes-vous prêt à mourir pour votre pays ?» Effectivement, les Européens, c'était entre 2, je crois que les Allemands étaient le plus bas, 2%, les Français le plus haut, genre 3 ou 5%, alors que les Russes ou les Turcs, c'est du 60%. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas ça, finalement, le point commun? Est-ce que parler d'armée commune, ou même de défense commune, en dehors des aspects économiques, ce n'est pas aussi de la pure rhétorique, parce qu'il n'y a aucun point commun dans les doctrines d'engagement, dans les traditions, etc. Il n'y a que 2 pays aujourd'hui en Europe, dont un qui va partir, sont la Grande-Bretagne et la France, qui ont la tradition, les capacités, la volonté de mener des interventions extérieures. En Allemagne, envoyer un avion ravitailleur pour aider les forces françaises au Mali nécessite un vote du Bundestag.
Alors, pure rhétorique, je ne pense pas, dans la mesure où, depuis la CED, les années 50, les années 90 ont marqué le début des petits pas de réalisations concrètes, plus ou moins d'ailleurs abouties. Les groupements tactiques qui ont été décidés peinent à se matérialiser. Mais ce qui est certain, c'est qu'au travers du traité de Maastricht, des objectifs de Petersberg, au travers également d'opérations civilo-militaires, il y en a plus d'une trentaine menées par l'Union européenne, l'idée, non pas d'une armée, mais l'idée d'une politique de défense et de sécurité commune commence à se matérialiser à l'ombre de l'OTAN, bien entendu, à l'ombre et surplombée par des menaces extérieures qui augmentent, se transforment, qu'elles viennent de Russie, du Moyen-Orient, de Méditerranée. Et si l'idée de défense européenne intégrée, puissante, se matérialisant dans une armée peine à s'affirmer, en revanche, l'idée de menace commune et d'un partage de l'évaluation des menaces, elle, fait son chemin.
On reviendra évidemment sur aussi les avancées récentes en matière d'Europe de la défense. Il faudra parler notamment de la coopération structurée permanente. Mais Pierre Arroche, sur ce point
Je dirais pas non plus que c'est purement rhétorique. Je pense qu'en fait, c'est un concept qu'on peut analyser à plusieurs niveaux. Il y a un niveau de slogan. C'est-à-dire, on l'utilise, un peu comme les Britanniques pendant le Brexit, pour envoyer un signal politique. Et après, on dit qu'il n'y a pas nécessairement de contenu. Par exemple, pour les Allemands, c'était aussi, ils l'avaient intégré dans leur programme de gouvernement pendant un temps. C'était une façon de montrer leur engagement européen extrêmement fort. Donc, c'était beaucoup plus politique que militaire. Peut-être que pour les Hongrois et les Tchèques, c'est une façon de militer pour la militarisation de la frontière à l'égard des migrants, plus que pour parler d'enjeux stratégiques internationaux. Donc, il y a cette dimension de signal politique. Mais il y a aussi une autre dimension qui est se donner un horizon. Un horizon à atteindre sur le long terme et à l'aune duquel on peut aussi évaluer les efforts qui sont faits aujourd'hui.
Justement, ces efforts, ils sont très très loin d'être suffisants. Je vous laisse la parole, Marc Sémo, mais pardon, je rebondis sur cette idée. Vous parlez de signal politique, d'accord, signal politique, mais regardons les moyens qui sont mis aujourd'hui en place. Même la France, qui dépense 1,8% je crois de son PIB, je crois qu'on est à 36 milliards d'euros pour le budget 2019 de la défense, qui est le budget le plus important. Quand on regarde derrière, ça traîne beaucoup. L'Allemagne a un peu plus de 30 milliards, l'Italie un peu plus de 20 milliards, l'Espagne a 10 milliards, et ensuite tout le monde est sous les 10 milliards et personne n'atteint les 2% du PIB qui avait été fixé par l'OTAN. Donc on voit bien qu'en termes de moyens, on n'y est pas du tout.
Sauf les Polonais et les Baltes, hein, qui se dirigent tout doucement vers les 2%.
Mais qui n'y sont pas encore.
Qui n'y sont pas encore, mais c'est un rattrapage.
D'accord, mais on parle de signal politique. Ça, c'est du signal concret, je veux dire. Et il n'est pas là, Pierre Arroche.
Il faut aussi voir que le contexte a changé dans les années récentes et que on est dans une phase de montée en puissance de l'effort. Parce que, en grosso modo, la défense européenne, ça obéit à 2 facteurs. D'une part, les menaces. D'autre part, le soutien américain. S'il n'y a pas de menaces, il n'y a pas besoin d'avoir un effort de défense européenne. S'il y a un soutien américain à 100%, on se repose sur eux. Ce qui a changé dans ces dernières années, c'est qu'on a à la fois une menace russe qui s'est installée dans le paysage et qui est apparemment faite pour durer. Il y a une menace au sud, dans la bande sahélo-saharienne, djihadiste, qui là aussi semble être faite pour durer. Et les États-Unis disent de plus en plus que ils veulent réévaluer leur engagement militaire dans le monde, faire moins de guerres, et que leur principal compétiteur c'est la Chine, qu'ils veulent se réorienter vers l'Asie. Donc ça, ça fait un contexte qui peut avoir un effet de long terme. Alors en défense, les réalisations peuvent pas se faire du jour au lendemain, mais il y a déjà une prise de conscience qui est en train d'avoir de porter ses fruits avec des initiatives qui se sont multipliées ces dernières années.
Marc, c'est bon.
Si on va jusqu'au bout du raisonnement d'une défense commune, un renforcement d'une défense commune, qu'est-ce qu'on fait de la force nucléaire française? Est-ce qu'on est prêt à la partager? Est-ce qu'on peut imaginer que la France donne de réelles garanties par rapport à l'Allemagne, ce qui poserait des problèmes, y compris constitutionnels? Par ailleurs, on ne peut pas associer les Allemands, parce que le traité de paix, finalement, fait après la chute du mur, interdit à l'Allemagne toute forme de possession de l'arme nucléaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de ça? Alors que c'est quand même un des piliers de la doctrine de défense française, de la dissuasion.
C'est voir les piliers. Il suffit d'intégrer ce qui a été fait, d'ailleurs, la défense de l'Allemagne et la défense des partenaires européens dans les intérêts vitaux de la nation. Il n'y a pas besoin de mettre l'arme en commun, mais simplement la doctrine en commun. Sur les moyens, je voudrais simplement revenir sur une initiative qui est récente et qui, elle, est prometteuse, mais sur le long terme, puisqu'elle ne produira ses effets qu'à l'échelle et à la chronologie des programmes d'armement. Le Fonds européen de défense, qui donc alloue d'un côté une enveloppe au départ 500 millions à la recherche-développement en matière de défense, et de l'autre 500 millions aussi, et progressivement une montée en puissance au programme d'armement commun. Ça, c'est une mesure concrète, une mesure très prometteuse pour débloquer les moyens. Vous l'avez rappelé.
D'accord. Sauf que dans les faits, ce qu'on voit aussi, c'est des Belges qui préfèrent acheter des F-35 plutôt que des Rafales d'assaut ou même l'Eurofighter Typhoon du consortium européen. Ça va pas vraiment dans le même sens.
Vous comprenez
ce que je veux dire? Alors, il y a un vrai paradoxe.
C'est le double langage.
On veut une industrie de défense européenne et on achète aux Américains.
C'est le cas de la Suède, c'est le cas des Polonais, c'est le cas des Roumains, c'est le cas des Grecs. Mais encore une fois, la nécessité de parler d'une armée européenne, c'est ça, c'est convaincre progressivement que non seulement on est désireux, volontaire, ça c'est la France, mais également capable, et là ce sera...
Capable, quand on voit la Belgique qui achète des avions américains, non, elle
qui est achète aussi des blindés français. Qui achète aussi des blindés français, le contrat est tout à fait récent. Ces programmes d'armement, cette recherche-développement, on fait la guerre avec des soldats, mais on fait aussi la guerre avec des équipements et de la technologie. Ça, c'est prometteur, ça se mettra progressivement en place, et c'est ce qui dissipera progressivement le double langage des États membres que vous pointez.
Pierre Arroche.
Et je pense qu'on peut pas éviter cette situation parce que pour l'instant, c'est sûr que les États-Unis, l'Europe de la défense n'est pas capable d'assurer la sécurité des États européens aujourd'hui. C'est un projet, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Il y a des institutions qui sont mises en place, des mécanismes. Mais pour l'instant, la plupart des États européens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à acheter leur sécurité aux États-Unis. Donc c'est normal que des petits pays se disent, on va passer des contrats avec les Américains parce que c'est ça qui peut rapporter à court terme. Maintenant, comme je disais, je pense que le sens de l'histoire est du côté de l'Europe parce que les États-Unis eux-mêmes, de plus en plus explicitement disent on va avoir une évolution de notre politique et les Européens doivent faire plus. Et je voudrais aussi rebondir sur le Fonds européen de la défense, que je trouve une initiative très intéressante, non seulement parce que on met de l'argent dans l'industrie de défense, mais surtout que c'est une initiative qui vient de la Commission européenne. Et ça aussi, c'est une innovation institutionnelle et politique extrêmement intéressante. La Commission européenne, c'était pas du tout un acteur de défense jusqu'ici. Et à cause de ce nouveau contexte stratégique, à cause de cette nouvelle demande, eh bien la Commission européenne, qui était un acteur normalement économique, s'est dit c'est notre rôle aussi d'intervenir dans le domaine de la défense et on a une légitimité. Et ça montre, et elle a été soutenue par les États membres. Donc ça montre aussi cette prise de conscience.
On va évoquer dans quelques instants l'Allemagne, on va revenir sur l'Allemagne, on va revenir sur l'initiative européenne d'intervention, plein de choses encore à se dire. Mais d'abord, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin, une caricature en fonction de notre sujet du jour, qu'on diffuse bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. C'est notre bulle Cartooning du vendredi.
Merci. Il fait le clown.
Mais on a été créés pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour
Alors,
à tous.
Alors le dessin que vous avez distribué à tout le monde, on le reconnaît, c'est Vladimir Poutine.
Et oui, c'est un dessin d'ailleurs qu'on pourrait intituler « Dans la tête de Vladimir Poutine ». Je vais vous dire pourquoi, mais un petit mot du dessinateur avant. Hein, il s'agit du caricaturiste belge Karl Mersman, dit Karl avec un K. Il croque l'actu pour plusieurs titres francophones et néerlandais, notamment les magazines Trends et Knack. Et ce dessin que nous avons choisi ce matin est tiré d'un recueil d'une soixantaine de caricatures publié par l'association Cartooning for Peace et Gallimard. Ça s'appelle « Poutine, un super tsar » et c'est paru il y a quelques mois. Alors, qu'y a-t-il dans la tête de Vladimir Vladivirovitch? Eh bien, des snipers en embuscade. C'est en tout cas la lecture qu'on peut faire de ce portrait du président russe. Le front et le sommet de son crâne ont pris la forme d'un blockhaus façon Seconde Guerre mondiale, tels ceux qu'on aperçoit encore sur la façade atlantique ou bien sur les plages de Normandie. Un bloc de béton avec ses petites fenêtres de tir desquelles émergent les pointes de canons, de fusils ou de mitraillettes. Il y en a quatre au moins, pointés tous azimuts, prêts à tirer. C'est assez glaçant car pour le reste, Poutine est représenté égal à lui-même. Le regard figé, les paupières légèrement tombantes, la bouche close. On ne peut pas s'empêcher de lui trouver un air menaçant, bien qu'il n'exprime absolument rien en réalité, à moins que ce ne soit un air indifférent. Indifférent aux ripostes et aux tirs qui pourraient le viser lui et ses combattants planqués derrière ce bunker qui lui tient lieu de boîte crânienne. Ils ont essuyé quelques coups déjà, on voit les impacts des balles et des tirs d'obus sur la façade. On devine un cratère en train de se former au-dessus de la fortification. La terre se fissure, tout menace de s'écrouler. Mais Poutine est imperturbable. Peu importe les dégâts et cette terre brûlée, c'est comme s'il n'avait qu'une seule idée en tête, et c'est le cas de le dire, une seule obsession, tenir ses positions. Il faut dire que ce dessin est paru en 2014, il n'est pas récent, c'était juste après l'annexion de la Crimée par la Russie. En cela, ce dessin de Karl reflète assez bien l'image du dirigeant russe dans les capitales occidentales, un monstre froid et belliqueux, notre ennemi par nature. Mais on peut aussi, pourquoi pas, inverser la perspective, voir dans ce dessin un homme assiégé et en posture défensive. Après tout, un blockhaus servait à se retrancher en cas d'attaque. Et si les Russes se sentaient eux aussi menacés, et s'ils craignaient par exemple de perdre ce rôle de grande puissance sur la scène internationale, chèrement retrouvé après l'effondrement des années 90, ce n'est pas ainsi qu'on voit les choses en Europe, mais c'est peut-être une question qu'on peut poser.
Ouais, c'est vrai, est-ce que c'est le monstre froid et belliqueux qu'on a tendance à décrire nous, ou est-ce que finalement la Russie se sent elle aussi menacé. C'est vrai que peut-être une première réaction sur les dessins que vous avez les uns et les autres en face de vous. Tiens, Cyril Bray.
Oui, dans la stratégie nationale de défense russe, effectivement, sont les menaces qui pèsent sur la Russie qui sont pointées. Et de ce point de vue-là, l'élargissement de l'Union européenne comme l'élargissement de l'OTAN est perçu aussi bien dans la presse que dans les documents officiels comme une menace pour la Russie. Je pense que cette caricature est très éclairante parce qu'elle montre à quel point le plan de réarmement lancé en 2009 par le président, à l'époque il était Premier ministre, par le désormais président Poutine est structurant pour son projet politique extérieure, mais pour son projet politique et économique intérieur. Il a porté en 2015-2016 l'effort de défense, c'est-à-dire le ratio du PIB consacré à la défense à 4%, ce qui est absolument considérable. Et il a relancé le complexe militaro-industriel que tous ceux qui ont connu l'Union soviétique connaissaient bien. On sait également que les grands groupes de défense russes actuellement sont positionnés sur le marché international, y compris pour générer de l'argent, pour générer des recettes et des brevets. Et enfin, ce que je trouve particulièrement intéressant, à la fois dans la tête de Vladimir Poutine, pour paraphraser Michel Elchaninov, mais également dans les bottes de soldats de Vladimir Poutine, c'est que c'est la reconstruction d'une fierté et la reconstruction d'une identité nationale au prix de la capacité de rayonnement et de fédération de la Russie. La Russie a choisi de se positionner en puissance disruptive plutôt qu'en puissance responsable. Et c'est le cas en Ukraine et en Syrie.
Marc Semopi,
Le budget de la défense russe est plus ou moins équivalent à celui de la France.
En valeur absolue. Oui, ouais. En ratio sur le... C'est ça le paradoxe.
C'est une
espèce d'élongation soviétique et on est en décrue actuellement.
Pourquoi nous, avec un tel budget, d'ailleurs, on n'arrive pas à avoir
vraisemblablement parce que notre priorité va plutôt à la cohésion sociale, ce qui est beaucoup moins traité. On voit que le taux de pauvreté en Russie, selon les normes européennes, est à 15%, ce qui est heureusement pas le cas en France ni en Europe, sauf peut-être en Moldavie.
Pierre Arroche, sur le dessin.
Je trouve que c'est aussi intéressant parce que pour l'Europe de la défense, c'est aussi, comme je disais, la menace, c'est quelque chose d'essentiel. Et le fait que la Russie, sans qu'on ait besoin de caricaturer Vladimir Poutine en monstre froid, mais simplement parce qu'effectivement, ils ont une politique révisionniste et qui utilise la menace, c'est quelque chose qui ramène les Européens sur Terre et les oblige à penser la nécessité de se défendre. Mais c'est aussi intéressant.
Mais vous n'êtes pas un peu étonné quand Emmanuel Macron nous dit les menaces pour l'Europe, c'est la Russie, les États-Unis, la Chine, ça n'apparaît pas forcément comme les plus grande menace pour l'Europe.
La Russie, si, c'est depuis la crise ukrainienne, elle est pensée comme ça. Mais je voulais aussi ajouter que ça permet, la politique russe permet aussi parfois de résoudre des problèmes entre Européens. Par exemple, récemment, on a vu de plus en plus les Russes présents non seulement à l'Est, mais au Sud, en Afrique, en Centrafrique, oui, en vrai, Libye. Oui. Et ça a permis à des pays comme la France de dire à leurs partenaires, ne considérez pas qu'il n'y a que ce qui se passe à l'Est qui compte. Oui, ce que nous faisons en Afrique, c'est important. Et la Russie, elle, ne dissocie pas le front Est et le flanc Sud.
Oui, d'ailleurs, il y a quelques accrochages en Centrafrique, effectivement, entre l'armée française et des mercenaires russes. Cyril Bray, puis ensuite, je voudrais qu'on revienne sur la question de l'Allemagne.
Oui, pointer la menace russe comme l'a fait Emmanuel Macron, c'est aussi une façon de se rallier des pays qui, généralement, n'en ont absolument rien à faire de la politique extérieure française, comme les Baltes, comme la Pologne, et même de tendre paradoxalement une main à l'Europe centrale, la Hongrie, la Roumanie, puisque la défense européenne sera cimentée par la perception des menaces à l'Est et au Sud.
Merci beaucoup Mélanie Chalandon. Je redis, on publie cette caricature sur le site de
France, compte Twitter,
sur le compte Twitter,
et le site, etc. La page Culture Monde.
L'Allemagne, c'est évidemment, on l'a un peu dit tout à l'heure, tu le disais Marc, c'est probablement le plus gros obstacle à l'émergence de cette Europe de la défense. L'histoire, bien sûr, l'histoire nazie de l'Allemagne fait qu'elle a beaucoup de mal à se projeter à nouveau comme une puissance militaire. Par ailleurs, depuis effectivement le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on ne pense la défense, en tout cas du côté de l'Allemagne, qu'à travers l'Alliance transatlantique. Est-ce que vous pensez que vraiment aujourd'hui, l'Allemagne, les Allemands, les responsables allemands sont convaincus effectivement qu'il faut prendre de la distance vis-à-vis des États-Unis, penser sa sécurité au-delà de l'OTAN? Est-ce que vraiment cette prise de conscience est réelle?
Il y a une fenêtre d'opportunité, exactement comme le retrait relatif et rhétorique américain et l'augmentation de la menace russe sont une fenêtre d'opportunité. Les initiatives françaises concernant l'Europe de la défense ont une fenêtre d'opportunité dans la coalition parlementaire et gouvernementale actuelle. Les affaires, la dégradation très forte depuis les années Obama, mais encore plus fortement depuis les années Trump, entre les dirigeants allemands et les dirigeants américains, font progressivement prendre conscience que les solutions ne sont pas toujours américaine. Et d'ailleurs, si on regarde cette fois-ci, pas du point de vue de la superstructure politique, mais de l'infrastructure économique et technologique, l'Allemagne a commencé à faire sa propre Europe de la défense en mutualisant des programmes de défense, mutualisant des acquisitions d'équipements dans le domaine naval avec les Pays-Bas, dans le domaine terrestre avec la Pologne. Et elle a commencé à disputer dans le cadre de l'OTAN en utilisant les cadres de l'OTAN, mais pour se désolidariser progressivement, pour réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis, à constituer son propre leadership industriel et technologique en Europe. Le paradoxe, c'est que l'Allemagne est à la fois le principal obstacle et le partenaire incontournable en matière de défense. Vous l'avez rappelé, le seul partenaire européen ayant une culture martiale, une doctrine militaire, des équipements et cet état d'esprit de défense, c'était le Royaume-Uni. Désormais, nous sommes dans un face-à-face avec le paradoxe allemand qui est de plus en plus intériorisé, de plus en plus explicité sur la puissance et la faiblesse de l'Allemagne en domaine politique.
Marc Semo, puis Pierre Arroche.
Ça bouge effectivement en termes d'industrie de défense, quoique il y a aussi un certain nombre. À la fois, c'est devenu un des grands exportateurs d'armement. Ensuite, mais est-ce que ça bouge sur les capacités d'intervention? Sur les doctrines d'intervention.
Sur les doctrines, le livre blanc récent marque une certaine évolution, même si le rappel de l'OTAN est constant.
Pierre Roche, ça bouge?
Oui, il y a quand même depuis quelques années un discours qui monte de plus en plus en Allemagne, qui est que l'Allemagne doit faire plus en matière de sécurité. Les Allemands ont accepté d'envoyer des troupes dans des théâtres, on les attendait pas nécessairement en Afrique, justement, à la demande des Français, au Mali. Tout ça,
c'est en support, toujours en support.
Il y a eu des troupes aussi, mais ça montre qu'il y a quand même une évolution culturelle qui est à l'œuvre, et les déclarations de la chancelière Merkel montrent que il y a aussi cette prise de conscience à l'égard des États-Unis. L'Allemagne a été le principal pays qui a poussé la mise en place de la coopération structurée permanente. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a fait avec exactement le même état d'esprit que les Français, qu'il n'y a pas eu des débats, mais disons que l'Allemagne a montré qu'elle voulait être un acteur moteur dans ce domaine quand même.
La déclaration du chef de l'État cette semaine, elle a eu lieu alors que se tenait la première réunion à Paris d'une coalition de 9 pays signataires de l'initiative européenne d'intervention, qui est un projet qui avait été lancé par Emmanuel Macron. En tout cas, l'idée avait été lancée dans son discours de la Sorbonne en septembre 2017. On a dans cette initiative la France et l'Allemagne, justement. On a le Royaume-Uni, tiens. On a la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l'Estonie, l'Espagne et le Portugal. Est-ce qu'on peut rappeler quand même en quelques mots de quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette initiative européenne d'intervention? Et est-ce qu'au fond, cette initiative qui est un peu ouverte, libre, un peu à géométrie variable, n'est-elle pas le meilleur moyen d'avancer sur le chemin de l'intégration de cette défense européenne? Pierre Arroche.
Alors, je pense que c'est une réaction aux crises récentes. Lorsque la France est intervenue au Mali, en Centrafrique, elle a constaté que même si parfois elle demandait le soutien de ses alliés européens, ce soutien pouvait être très lent et très difficile à négocier. Et donc c'est comme ça qu'est née cette réflexion selon laquelle il faut préparer les opérations conjointes en amont, essayer de faire converger les points de vue avant d'avoir à demander à un premier ministre ou à une chancelière d'envoyer des troupes, parce que si on le fait ça au dernier moment et que nos partenaires ne sont pas préparés, ça va être très difficile, ils vont dire non ou envoyer des contributions.
Donc il faut faire émerger une culture stratégique comme...
Voilà. Et donc il faut avoir une approche convergente des situations bien en amont, en se disant voilà, dans cette région il y a tel et tel risque, telle et telle menace que nous avons déjà identifié ensemble, on a des scénarios de crise et d'intervention en commun et on a des plans d'action en commun et que nous pourrons réaliser ensemble. C'est une façon de préparer en amont pour ne pas avoir à découvrir les difficultés de l'action en commun au dernier moment.
Mais il n'est pas question pour l'instant d'aller sur des situations de conflit armé sur ce projet-là.
Il peut y avoir du maintien de la paix.
Si, l'enjeu, c'est de pouvoir faciliter des interventions.
Cyril Bray.
Cette initiative européenne est prometteuse à plus d'un titre. C'est le premier résultat positif dans le domaine de la défense de l'ambition européenne renouvelée d'Emmanuel Macron. Deuxièmement, c'est une préparation de scénarios. Les interventions sont entre ces 9 pays sont prévues dans le cadre de scénarios qui vont de la récupération des ressortissants dans des théâtres de guerre jusqu'au maintien de la paix. Et ce qu'on développe, c'est encore plus qu'une culture stratégique commune qui est essentielle, mais également des réflexes d'opération et des réflexes opérationnels. Parce que pour faire la guerre, en fait, il faut beaucoup de réflexes et beaucoup de procédures. Donc une évaluation, évidemment, de la situation tactique, le type de doctrine qu'on emploie face à tel type de menace. Est-ce qu'on déploie des hélicoptères? Est-ce qu'on déploie des troupes au sol? Et l'habitude également des officiers intermédiaires, d'agir ensemble. Et c'est pour ça que cette initiative comprend des échanges d'officiers. Donc c'est un premier résultat positif qui matérialise, et c'est le dernier point, en dehors de l'Union européenne. C'est juxtaposé à l'Union européenne, cette initiative européenne de défense, des capacités d'agir en commun pour des menaces immédiates et déjà pré-répertoriées.
Ce qui permet de garder la Grande-Bretagne, justement.
Pas insulter l'avenir, effectivement.
Marc Semo. La question aussi qu'on pourrait se poser, c'est comment font les États-Unis et peut-être en particulier l'OTAN, comment est-ce qu'on réagit à cette montée en puissance de l'Europe de la défense, à ce désir d'autonomisation? Est-ce que finalement on pourrait pas voir à terme des Américains qui s'inquiéteraient un peu, voire carrément qui se raviseraient en voyant ces Européens s'émanciper? Parce que cette autonomisation, elle veut aussi dire peut-être, et vous l'avez tout à l'heure dit un peu l'un et l'autre, une montée en puissance de l'industrie de défense européenne et donc forcément un manque à gagner pour l'industrie américaine de défense. Est-ce que finalement, les Américains vont pas se dire, tiens, finalement les Européens sont en train d'aller peut-être un peu trop loin, ça va nous coûter cher. Pierre Arroche.
Bon, je pense pas que ça puisse vraiment leur coûter cher, parce qu'il n'y a pas de préférence européenne mise en place dans les mécanismes qui ont été adoptés. Le Fonds européen de la défense n'interdit absolument pas aux États européens de continuer à acheter américains. Il y a simplement des bonus et des sources de financement lorsqu'on met en place des projets transnationaux européens. Mais effectivement, l'ambassadrice américaine dans le cadre auprès de l'OTAN a effectivement évoqué le terme de protectionnisme, mis en garde les Européens, et effectivement ça embête un petit peu les Américains si on essaye de financer et de stimuler des projets européens. Mais en même temps, les Américains doivent être aussi cohérents. Ils peuvent pas dire d'un côté les Européens doivent faire plus, on ne veut pas d'alliés qui comptent uniquement sur nous, ils doivent penser à assurer leur sécurité un peu de façon autonome, et en même temps, lorsque les Européens commencent à répondre à cet appel, dire ah non, mais là vous vous autonomisez, ça ne va pas. Il faut aussi mettre un peu de clarté dans le message américain qui parfois est un peu contradictoire.
Cyril Bray.
Je ne suis pas inquiet pour le Big Five, c'est-à-dire les 5 plus grands groupes de défense américains. ils ne font pas leurs résultats essentiellement à l'export, et pas à l'export même si c'est très visible en Europe, ils le font sur le marché national. Et de ce point de vue-là, l'administration Trump est tout à fait satisfaisante pour elle, de sorte qu'il faut bien distinguer entre la rhétorique et la réalité. Les Américains continuent à avoir ce double discours « débrouillez-vous tout seul, mais achetez nos armements », mais ça n'est pas vital, et ça ne sera donc pas une force de rappel structurelle pour les États-Unis en tout cas.
Mais attendez, à terme, c'est pas ce qui se passera. Les Européens vont pas dire on va continuer à acheter votre matériel. Il y a bien un moment où quand même on va réussir à mettre en place des dispositifs qui permettent de renforcer notre industrie européenne de l'armement.
Enfin, c'est le pari de vieilles institutions, l'Agence européenne de défense et l'OCCAR, et de nouvelles institutions comme le FED. C'est le pari, et que l'éviction des programmes américains soit graduelle. Mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la Belgique vient d'acheter des F-35 européens, et pas du tout des Rafales, ou pas du tout...
F-35 américains. Vous avez dit européens.
Voilà, c'était un souhait en fait. C'était un souhait.
Vous auriez voulu que les F-35 soient européens.
J'aurais voulu que les chasseurs européens soient effectivement achetés par les Européens.
Mais c'est pas le cas. Pierre Arroche.
Oui, non, je suis d'accord, et je pense que, in fine, l'enjeu stratégique va dominer l'enjeu industriel dans la vision américaine, et c'est pour ça que je pense que l'évolution américaine, in fine, sera plus favorable à l'évolution d'une défense européenne aussi.
Oui, ouais, il faut bien voir, c'est une tendance bipartisane, hein, ce n'est pas seulement Trump qui avait demandé, c'est récurrent, sous Obama, également sous Bush, les Européens, d'ailleurs comme les alliés japonais et les Coréens, doivent plus payer pour leur propre défense, de sorte que le mouvement est structurel, et je partage l'idée selon laquelle c'est une opportunité pour la défense européenne.
Et on pourra conduire les deux, c'est-à-dire le renforcement de l'Europe de la défense et rester à l'intérieur de l'OTAN et mettre les moyens que nous demandent les Américains, on pourra faire les deux de front.
Ce sera le jeu d'équilibre qui se poursuit depuis les années 50 et la construction de l'alliance atlantique, sans doute avec une division des tâches en fonction des types d'opérations et des types d'exercices à réaliser.
On peut mener les deux, Pierre Arroche ?
C'est ça qui est compliqué en ce moment, c'est que aussi on a non seulement l'OTAN et puis plein d'initiatives européennes. Des gens se sont demandé est-ce que l'initiative européenne d'intervention, ça ne fait pas doublon avec la coopération structurée permanente qui est mise en place dans le cadre de l'Union européenne. Les moments où les initiatives se multiplient, c'est forcément des moments où on peut se poser des questions en termes de cohérence. Mais je pense que la cohérence va venir petit à petit dans la pratique que les États membres vont faire de ces institutions. Et je pense que même il est tout à fait envisageable qu'il y ait un renforcement du pôle européen au sein de l'OTAN, qui était aussi une idée qui a été beaucoup discutée dans le passé.
Enfin, les Américains n'en veulent pas beaucoup, tiens. Les Américains ne sont pas tout à fait d'accord.
Ça peut avoir un sens si les Américains, par exemple, veulent déléguer certaines missions, ou qu'il y a certaines missions que les Américains ne veulent pas assumer directement, de dire que c'est plutôt la branche européenne, dans le cadre de l'OTAN, qui peut s'en occuper.
Come on, you think you'll drive me crazy, well, come on, come on, you and his army, you and your cronies. Come on, come on, Holy Roman Empire. Come on if you think.
You and Who's Army, Radiohead, un album de 2001. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairé ce matin. La paix en Europe passe-t-elle par une armée commune? On n'y est pas tout à fait encore. Merci beaucoup, Pierre Arroche, chercheur sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Cyril Bray, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes
professeur
de géopolitique à Sciences Po. Et tiens, cette année, vous aviez publié Qu'est-ce que le terrorisme aux éditions Vrin. Merci également à Marc Semo, notre partenaire du vendredi.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
Alors, les démocraties sont-elles réellement en danger? Le risque de les voir renversées pour faire place à des régimes autoritaires est-il sérieux, Brice?
Je me souviens avoir lu dans Le Nouvel Observateur, rubrique Téléphone Rouge, l'extrait d'un dialogue, figurez-vous, entre Marek Alter et le président de la Fédération de Russie de l'époque, Boris Yeltsin. Ce dernier, formé à l'école marxiste des états successifs des modes de production et des systèmes politiques correspondants, demandait à son interlocuteur « Mais avez-vous expliqué ce qui venait après la démocratie ?» réponse de Marek Alter. Il n'y a rien après, elle est perfectible. Le président russe narquois. Ah, il n'y a rien, alors il faut s'en accommoder. Nous étions en octobre 1995 et près d'un quart de siècle plus tard, Marek Alter ferait une réponse très différente. Hélas, oui, oui, il peut y avoir quelque chose après la démocratie. Et d'ailleurs, votre successeur au Kremlin l'incarne, ça s'appelle la démocrature. Et puis, entre la démocratie libérale proprement dite et la démocrature à la Poutine ou Erdogan, il y a toute la gamme des nuances de la démocratie illibérale. Yascha Mounk, dont j'ai beaucoup parlé ici, avertit. Les démocratures menacent surtout la démocratie en cas de réélection de dirigeants illibéraux, car ils ont alors le loisir et le temps d'étouffer la presse d'opposition, de mettre au pas la magistrature, de truffer les sommets de l'appareil d'État de membres de leur propre parti. À la seconde réélection, alors là, ils apparaissent en effet difficilement éjectables, à moins d'une révolution populaire. Les États-Unis ne sont pas une démocrature. Donald Trump n'est pas vraiment illibéral, mais oui, certainement populiste. Et les récentes élections américaines ont montré qu'il n'a, moins que jamais, derrière lui, la majorité des électeurs, mais qu'il conserve par contre la majorité des États. D'où un échec à la Chambre des représentants et une victoire au Sénat. Il faut donc se faire à Trump, s'y accommoder. Il ne va pas subir l'impeachment. Il faudrait les deux tiers du Sénat où les républicains sont majoritaires. Il pourrait même gagner sa réélection dans 2 ans. Son élection n'était donc pas un accident.
Et alors du coup, Brice, les réflexions en cours sur la crise de la démocratie occidentale reprennent de plus belle.
Oui, David Runciman, le responsable du département de politique à l'université de Cambridge, estimait récemment que la démocratie n'est pas vraiment en danger, disait-il. La situation n'a rien à voir avec la crise des années 30 en Europe. Mais elle subit, d'après lui, une espèce de midlife crisis, une crise de la quarantaine. Et il compare l'élection de Donald Trump à ce caprice courant chez les quarantenaires consistant à s'acheter la moto rutilante et pétaradante dont il rêvait à 20 ans. Et sur laquelle ils paraissent légèrement ridicules à leur âge. En réalité, poursuit Runciman, nous votons pour des Trump parce que nous faisons suffisamment confiance à la démocratie. Nous estimons qu'elle est assez solide pour pouvoir supporter ce genre d'expérience. On joue à se faire peur. Dans les années 30, poursuit Runciman, des milices politiques armées s'affrontaient dans les rues. Des jeunes militants extrémistes tiraient sur la police. L'Europe, au sortir de la Grande Guerre, était encore en état de choc post-traumatique. Aujourd'hui, ce sont surtout des personnes âgées qui sont en colère parce qu'elles ne reconnaissent plus le monde dans lequel elles sont nées. Non, ce qui menace vraiment la démocratie pour Runciman, ce sont ces nouvelles compagnies du numérique qui interfèrent à tous les niveaux dans notre vie politique, en particulier via les réseaux sociaux qui sont en train de détruire les médias traditionnels. J'ai trouvé dans la lettre confidentielle Phoebe le résumé d'une étude de forte intéressante publiée récemment dans l'American Sociology Review. Son auteur, Mohamed Ali Kadivar, un jeune chercheur de l'université Brown, a analysé les suites d'une histoire de transition démocratique dans 80 pays à travers le monde entre 1960 et 2010. À l'aide de toute une batterie de statistiques, il a isolé ce qu'il appelle les conditions pour qu'une telle transition démocratique réussisse et que la démocratie s'ancre et se développe. Ce qui lui permet au passage de contredire une opinion souvent professée par les experts en transitologie. Pour ces derniers, qui s'appuient en général sur les cas des ex-démocraties populaires d'Europe centrale, passées donc à la démocratie libérale en 1989, la condition principale de la réussite d'une telle expérience, c'était la capacité des modérés des deux camps à passer un compromis acceptable. Exemple, la table ronde polonaise de 1989 où les dirigeants de Solidarité ont promis à ceux du Parti communiste de ne pas les faire juger pour les crimes commis à l'époque stalinienne s'ils acceptaient le verdict d'élections libres. Or, pour Mohamed Ali Kadivar, qui se base notamment lui sur le cas de l'Afrique du Sud, c'est l'intensité et la durée des manifestations de masse précédant la chute de l'ancien régime qui soutient le futur processus démocratique. Parce que ces mobilisations de masse permettent de former les leaders des nouveaux partis et qu'ils sont aptes à canaliser et à exprimer les exigences populaires. Au contraire, les ententes au sommet frustrent les peuples, Il les juge ensuite comme des complots entre les élites. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Europe centrale.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve la semaine prochaine. Juste le temps pour moi d'indiquer aux auditeurs que demain, dans Affaires étrangères avec Christine Ockrent, vers la fin du contrôle des armements stratégiques, l'Europe en première ligne, Thomas Gomard et Nicou Popescu seront notamment les invités de Christine Ockrent. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.